Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle d'un sujet qui est sensible, l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, sujet sensible, sujet douloureux évidemment, mais dont il faut parler. Et donc Angélique est venue nous raconter son histoire douloureuse, elle est venue se raconter auprès d'Agathe Le Caron, vous allez l'entendre, et puis nous serons avec une psychologue qu'on aime beaucoup, Florence de Ouaï, pour analyser tout cela. C'est parti.
Alors on le sait évidemment, il faut beaucoup de courage pour affronter la perte d'un bébé pendant la grossesse et il en faut tout autant pour venir en parler dans cette émission ce matin. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Alors évidemment, depuis tout va bien, donc c'est pour ça que ça va être un tout petit peu plus facile d'en parler avec le recul, mais vous avez vécu vraiment quelque chose de tragique. Votre premier enfant Lynn est né sans vie le 4 décembre 2012. C'était suite à la découverte d'une malformation cérébrale très très grave à l'échographie et la décision a été prise avec les médecins de procéder à une IMG, donc à une interruption médicale de grossesse. Vous allez nous raconter comment vous êtes préparée, comment vous êtes reconstruite. Pourquoi est-ce qu'on fait cette émission? C'est pas gratuit, évidemment. C'est parce que vous êtes là pour peut-être aider les jeunes parents qui sont dans la même situation ou qu'ils seront peut-être un jour et donner de l'espoir aussi. Et alors, le soleil est revenu. Je parlais d'espoir puisque vous avez donné naissance à Léandre et Camélia qui ont aujourd'hui 6 ans et 1 an et demi. Alors, on revient en arrière. Vous avez fait plusieurs fausses couches. Le début de votre grossesse en 2012 se passe plutôt bien. Tout va bien. La première échographie, on vous dit juste qu'il est petit, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ils ont juste changé un petit peu les dates, mais voilà, rien de...
Alors, à la deuxième échographie, donc c'est l'échographie du deuxième trimestre, là, tout bascule. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe cette échographie?
Oui, alors on allait à l'échographie morphologique, comme tout parent, enfin, ou presque, découvrir le sexe du bébé. Et puis là, l'échographe pose la sonde sur mon ventre et change tout de suite de visage. Donc je comprends qu'il y a quelque chose, mais il reste un petit peu silencieux un moment. Et après, il annonce que le bébé a les lobes du cerveau qui ont fusionné, et que c'est une malformation très grave, et que c'est un bébé qui ne serait pas viable à la naissance et qu'il fallait arrêter la grossesse.
Donc en fait, votre bébé, il vivait parce que vous étiez... c'est vous, finalement, qui étiez le moteur de sa vie, quoi.
C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on ne peut pas savoir, en dehors de votre ventre, combien de temps il va survivre et dans quelles conditions.
Bon, alors, c'est l'horreur parce que échographie du deuxième trimestre, on a largement eu le temps de se projeter, oui, de s'attacher. Comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce?
Tout de suite, j'ai fermé les yeux très fort pour ne plus voir, en fait, l'écran. J'ai mon mari qui me tenait la main, qui me serrait la main. J'avais mes larmes qui coulaient. J'étais silencieuse pendant tout le temps. C'était très long parce qu'il prenait plein de mesures. Et voilà. Et ensuite, après, dans la salle où on se rhabille, je me suis effondrée, forcément.
Est-ce qu'il vous a tout de suite parlé d'interruption médicale de grossesse?
Oui, tout de suite, en fait, il nous a presque pas laissé le choix. Il nous a indiqué qu'il fallait absolument accoucher, qu'il y avait une commission qui se tiendrait bientôt pour parler du cas, pour savoir si on avait l'autorisation ou pas d'arrêter la grossesse. Et que c'était l'issue fatale de cette grossesse.
Alors, en règle générale, quand on a un choc comme ça, toutes ces infos-là, j'imagine que vous ne réalisez pas trop encore.
C'est ça, on a eu plein d'informations d'un coup, donc j'étais un petit peu ailleurs, on va dire, à ce moment-là, mais j'ai compris l'essentiel, quoi.
Vous étiez suivie par une sage-femme libérale, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? Vous l'avez contactée, j'imagine,
juste après? Je l'ai contactée juste après, oui. Et elle m'a dit, enfin, elle a bien vu que c'était très... soudain pour moi, j'étais dans tous mes états, donc elle m'a dit, on va se poser, c'est un choix très difficile à prendre, tu vas en discuter avec ta famille, ton mari, et vous allez prendre ce temps-là pour faire ce choix.
Voilà, donc premier conseil, c'est on prend son temps.
C'est ça.
Plutôt que de se précipiter, parce qu'il faut peut-être un peu digérer la nouvelle, j'imagine.
Aussi, oui.
Alors, vous êtes retournée à l'hôpital ensuite pour faire une ponction de sang fœtal. C'est pas très agréable. Hein. Et on vous a fait une nouvelle échographie dans la foulée.
Oui, à ce moment-là, on a refait une échographie. Et jusqu'à présent, on n'avait pas eu le sexe du bébé. Et on voulait savoir pour se projeter. Donc j'ai demandé à ce moment-là à la personne qui a fait l'échographie. Sauf qu'elle n'arrivait pas à voir le sexe. Et là, elle me dit, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change pour vous? Donc là, c'est un premier... On n'a pas su quoi répondre. À vrai dire, à ce moment-là, c'était un peu...
Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours des histoires comme ça. Oui. Bon, après, on peut comprendre que le corps médical soit un petit peu démuni aussi face à ce genre de drame. Mais c'est vrai que chaque mot compte. Hein,
oui, tout à fait.
Et c'est extrêmement marquant. Alors, entre-temps, la commission qui a étudié votre dossier a validé la possibilité de procéder à une IMG. Mais c'est évidemment à vous que revenait la décision finale. Comment est-ce que vous avez tranché ?
À vrai dire, il nous avait bien expliqué que c'était très grave. Après, nous, le choix de l'interruption médicale de grossesse a été assez rapide à prendre, finalement, mais parce qu'on ne voulait pas qu'elle souffre, en fait, en dehors de mon ventre, parce que c'était le risque d'être branchée, etc. Donc, on a fait le choix assez rapidement. Après, il a fallu choisir une date, et ça, c'était...
C'est dur.
Dur, oui. J'aurais préféré qu'on choisisse la date pour moi.
Ça veut dire qu'entre l'annonce du diagnostic et l'accouchement, il y a eu 2 mois quand même, qui se sont écoulés. C'est long,
oui.
2 mois. Comment est-ce que vous avez passé ces 2 mois-là ?
Alors, c'est long, mais c'était notre temps, en tout cas, nous deux, à mon
c'était
mari
nécessaire.
Et moi. C'était nécessaire. On a, en fait, c'est grâce à ma sage-femme qui nous a aidés. Elle a bien vu que c'était trop rapide pour moi. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas d'urgence vitale, en tout cas, à accoucher demain. Donc, on va tout préparer et tu vas...
Et ça va, et voilà.
Et, ça va,
et il fallait que vous preniez le temps d'intégrer et que
ça.
Vous prépariez aussi votre deuil, en fait. Vous avez eu l'impression que ces 2 mois, c'était nécessaire pour ça.
Oui, j'en ai eu besoin. On a beaucoup discuté avec notre famille, on a discuté ensemble. On a vu un psychologue aussi. Pour,
vous avez pris le temps de parler aussi à votre bébé ?
Beaucoup. Mmh. On a beaucoup parlé, déjà parce que je voulais lui demander pardon. Je voulais lui expliquer le choix qu'on avait fait et qu'on ne souhaitait pas qu'elle souffre, en fait.
Alors, un des grands messages que vous vouliez passer aussi, en venant témoigner ce matin, c'est que vous avez vécu un très, très fort sentiment de culpabilité. Et ça, bon, évidemment, vous voulez aider les parents qui ressentent la même chose. Est-ce que les résultats des analyses génétiques ont allégé le poids de cette culpabilité ?
Alors, oui et non, parce qu'on a découvert qu'il y avait un souci au niveau du chromosome 18, il manquait un morceau, mais qui était indépendant de nous, donc c'est dû à un mauvais brassage. Mais en même temps, on a fait le choix d'interrompre la grossesse, donc on a quand même un sentiment de culpabilité et on a aussi l'impression de devoir justifier toujours pourquoi on fait ce choix.
Oui, oui, c'est ça.
Mais on ne devrait pas, en fait, c'est personnel. Et...
Alors, c'est à 31 semaines d'aménorrhée que l'IMG a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée ?
Oui.
Comment est-ce qu'on arrive à survivre à une journée pareille ?
Déjà parce que ça a été bien préparé avec la sage-femme. Il y a eu un projet de naissance avec lumière tamisée, un peu de musique. Dès le matin, on nous a... Enfin, on m'a... Ben, comment dire ?
On vous a accompagné.
Préparé. Voilà, en tout cas, préparé mon corps. Après, il y a eu le geste. Donc, on appelle un féticide. Donc, déjà, ce mot est assez dur à entendre. Donc, c'est endormir le bébé via l'injection d'un produit dans le liquide amniotique. Et ensuite, il déclenche l'accouchement. Ça a duré environ 9 heures. Après, on m'a posé le bébé sur moi, comme en peau à peau, quelques minutes, pour ensuite la reprendre, la nettoyer et l'habiller avec des petits vêtements qu'on avait fait tricoter. Et pendant les 2 heures de surveillance après l'accouchement, on a passé ce temps-là tous les trois dans notre bulle. On a pris des photos, on a pris
des temps ensemble. Ça aussi, c'était un temps nécessaire.
Oui, pour nous.
Alors, vous avez vécu aussi, alors ça c'est particulier, un congé postpartum, mais ça c'est très bien que vous ayez pu le faire. Ça aussi, ça a été nécessaire, ce temps de congé maternité.
Oui, c'est
véritable.
Ça, un vrai congé maternité, nécessaire aussi, parce que bon, je viens d'accoucher, donc c'est quand même, il faut se remettre physiquement de l'accouchement. Après, effectivement, on est chez soi, on est dans une maison où on a commencé à préparer l'arrivée d'un bébé, donc il y a toujours ce côté-là un peu difficile. On a tous les désagréments finalement du postpartum sans avoir le cadeau à la fin.
Et vos proches, ils ont compris votre douleur ?
Oui, oui, oui. On a été
très bien accompagnés.
Oui, on n'a pas eu de mal à en parler non plus, donc voilà.
Alors attention, la lumière revient. Parce que 3 ans après cette épreuve, vous donnez naissance à un petit garçon qui s'appelle Léandre. Évidemment, quand on vit un truc comme ça, la grossesse d'après, elle est toujours un petit peu particulière. Comment est-ce que vous avez vécu cette grossesse et votre accouchement ?
Alors, ce n'était pas très serein, ça c'est sûr, mais on a été bien suivis. On a eu une échographie tous les mois, donc on a pu voir l'évolution du bébé. On a rapidement été rassurés. Après, l'accouchement, c'était très bien, donc vraiment
Vous avez pu vous
parfait.
Projeter, vous avez pu vous investir dans cette grossesse ?
Pas dès le départ, mais... après la date des 31 semaines, j'ai eu l'impression qu'il y avait un cap à passer.
Alors, en 2020, il y a une petite fille qui est venue agrandir la famille, oui. Camélia. Est-ce que vous avez parlé de Lynn à vos deux enfants?
Oui, on en a parlé assez rapidement. Juste mettre quelques petits mots sur ça, en faisant une belle histoire, comme quoi ils ont une grande sœur qui n'a pas pu rester avec nous parce qu'elle était trop malade, qu'elle est partie au ciel, qu'elle veille sur nous. Enfin, on a essayé de faire une jolie histoire et ils sont au courant.
Et elle fait partie de la famille, c'est ça. Évidemment. Et donc, nous avons sur ce plateau Florence de Wailly. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue et psychanalyste à la maternité du Centre hospitalier de Versailles. On l'a vu avec le témoignage d'Angélique. Entre le moment de l'annonce et l'IMG, il y a eu 2 mois. C'est fréquent, cette période entre justement l'annonce, le choc et le moment où on déclenche l'accouchement?
Alors en fait, la question du temps, de la temporalité, elle est hyper importante et hyper intéressante. C'est-à-dire que dans ces moments-là de vie extrêmement difficiles pour tout le monde, la temporalité des médecins, ce n'est pas la même que celle des parents.
Oui.
Parfois, pour les parents, ce n'est pas la même non plus. C'est-à-dire que dans le couple, il peut y avoir des difficultés l'acceptation de
Bien
cette
sûr.
Histoire. Et du coup, en fait, tout ça s'étale sur quand même un certain temps. C'est-à-dire que d'habitude, c'est ce qu'a dit Angélique, hein, d'abord, il y a une annonce d'une malformation, d'une pathologie gravissime, mais ensuite, c'est pas tout de suite qu'on prend la décision de l'IMG. On fait quand même des examens supplémentaires, on refait des échographies, etc. Et donc ça peut durer sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon. Après, quand la décision de l'IMG a été prise, donc c'est une demande des parents, mais c'est validé effectivement par une commission, là, en général, ça va plus vite. C'est-à-dire que souvent, enfin, dans mon expérience, c'est souvent une quinzaine de jours après où on organise et puis voilà. Là, ce que Angélique dit, c'est qu'effectivement, ils ont eu besoin tous les deux de préparer cet accouchement. Et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que je pense que c'est important pour les équipes soignantes, en tout cas, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'un accouchement à 32 semaines, ce n'est pas pareil qu'à 20 semaines quand même. On écoute la temporalité du couple, en fait.
Beaucoup de questions sur cette épreuve nous ont été envoyées. Là, vous avez celle de Cécile en vidéo.
Oui.
Bonjour, je suis la maman de Colombe, née le 5 février 2021. Subir une IMG, c'est prendre 2 décisions qui chamboulent une vie. C'est décider d'arrêter le cœur de son bébé, mais c'est aussi décider de le voir ou non. L'idée de porter dans ses bras son bébé mort fait terriblement peur, surtout pour un premier bébé. Pouvez-vous donner votre expertise sur ce choix fondamental avant de vivre l'après ?
Mon expertise, c'est difficile.
C'est
un choix très personnel. En fait, les équipes, à partir du moment où l'IMG, l'accouchement ont été décidés, on demande aux parents ce dont ils ont envie. Est-ce qu'ils ont envie de voir leur bébé ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de passer un moment avec lui ou pas? Et on peut toujours changer d'avis. C'est-à-dire que la maman dit, bah oui, moi j'ai envie de l'avoir sur moi pendant quelques temps, comme a fait Angélique. Et puis finalement, elle ne veut pas au moment de l'accouchement parce que c'est trop difficile. Eh ben, on accueille ce changement d'avis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des photos qui sont prises de toute façon.
Oui.
On prépare les bébés, même tout petits, on peut les envelopper dans un linge. Il y a des bénévoles, en général dans les hôpitaux, qui tricotent des toutes petites brassières, etc., donc selon le terme des enfants. Mm-hmm. Donc, de toute façon, ils sont habillés, ils sont préparés. On prend des photos qui restent dans le dossier. Mm-hmm. Et du coup, les parents, quel que soit le délai après l'accouchement, ils peuvent retrouver ces photos-là. Donc, on laisse vraiment... voilà, il n'y a aucune obligation pour voir son bébé. Ce qui est sûr, c'est que de mon expérience, l'accueil, la confrontation, l'accueil de ce bébé, le fait de le voir, ça permet souvent aux parents d'abord d'accepter la réalité, enfin de l'intégrer en tout cas, c'est-à-dire de ne pas dénier la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu un bébé mort. Ouais. Et puis aussi d'aller un peu jusqu'au bout, c'est ce que les parents disent, c'est-à-dire qu'on l'a accompagné, c'est ce que dit Angélique aussi, on l'a accompagné jusqu'au bout, on l'a pris dans nos bras, elle est devenue vraiment notre fille, et puis ensuite on a pu la laisser partir. Voilà.
On a reçu une question de Delphine à propos des papas. Regardez.
Ouais. Bonjour la maison des maternelles, j'ai une question concernant les papas qui sont souvent oubliés mais qui souffrent beaucoup. Quand j'ai subi mon IMG, j'ai été au plus mal et mon mari a tenu le coup, il m'a soutenue sans rien laisser paraître, mais il a eu un gros contre-coup plus d'un an après. Et du coup, je voulais savoir comment peut-on aider les papas à surmonter cette épreuve. Merci beaucoup.
Alors, les papas, on les oublie pas. enfin on essaye en tout cas, non mais on les oublie pas. Par contre, c'est vrai qu'ils sont moins au centre des préoccupations des équipes parce que bah, c'est la maman qui va prendre des médicaments, qui va accoucher, etc. Donc dans toutes les consultations, les pères sont vraiment les bienvenus, c'est-à-dire qu'ils sont la consultation pré-IMG, ils sont là s'ils le souhaitent. Nous, les psychologues, on reçoit les couples, hein, les papas, les mamans, etc. Et puis, mais c'est vrai qu'ils sont souvent dans une position de tenir, hein, pour essayer de contenir et d'étayer leur conjointe. C'est important de les suivre après. C'est-à-dire que nous, à l'hôpital, on suit beaucoup de couples pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après un IMG. Donc, on peut recevoir les papas et les couples. Il y a de toute façon toujours une consultation médicale aussi, quelques mois après, souvent avec des résultats d'autopsie, etc., où là, les papas sont conviés. Et quand les médecins se rendent compte que... il y en a un des deux ou les deux qui ne vont pas très bien, mais ils nous appellent en disant bah, « peut-être tu pourrais voir monsieur X ». Voilà. Et puis, il y a beaucoup de maternités, alors nous, ce n'est pas encore le cas à Versailles, mais on va le faire, où on propose des groupes de parole de pères ou de couples endeuillés, donc ils ont fait une fausse couche tardive ou une IMG, voilà. Et à ce moment-là, ils peuvent aussi s'exprimer. Donc, on ne les oublie pas, mais c'est vrai que souvent au départ, dans le processus, voilà, ils sont un tout petit peu mis de côté parfois.
Alors Lou vous demande comment se préparer au congé maternité sans bébé. Elle dit j'appréhende l'état de mon corps, la chute hormonale. Faut-il prévoir des visites de proches, une reprise rapide du travail pour me changer les idées ?
Alors, il ne faut rien. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut dans des circonstances pareilles. On fait ce qu'on peut et ce qu'on imagine souhaiter. Ce qui est sûr, c'est qu'après après une interruption médicale de grossesse et après un accouchement, bah, le corps quand même a subi l'accouchement. Donc je pense que c'est important de pouvoir un minimum se reposer un petit peu, prendre un petit peu le temps, et physiquement et psychiquement. Vous en parliez avec Angélique, le temps du deuil, il est quand même un peu important. C'est-à-dire que si on veut pouvoir se repartir dans la vie, se relancer, il faut prendre le temps de cette souffrance, de ce vide, voilà. Donc, il y a le congé après 22 semaines, après 22 semaines d'aménorrhée, si l'accouchement a lieu après 22 semaines, il y a un congé maternité, qu'on peut prendre en totalité ou pas, ça c'est vraiment le choix des femmes, et puis avant, si ça se passe avant, on peut prendre un congé maladie. Mais c'est vrai que le conseil, c'est plutôt de s'arrêter quand même un petit peu.
Question, effectivement, la première est de Bénédicte qui nous a envoyé sur les réseaux sociaux. J'ai beau me répéter que c'était la meilleure chose à faire pour notre bébé, je n'arrive pas à me défaire d'un fort sentiment de culpabilité depuis mon IMG. À vous des conseils.
Alors, de toute façon, le sentiment de culpabilité, il existe toujours. Moi, je le rencontre toujours dans les morts périnatales et en particulier les IMG, parce qu'effectivement, les IMG, il y a une décision des parents. Je pense que c'est le temps et puis surtout de pouvoir reprendre l'histoire avec un médecin. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait une consultation post-IMG, donc on reprend l'histoire avec éventuellement les raisons pour lesquelles on a été amené à faire une IMG, etc. Et puis si ça met trop de temps, ce sentiment de culpabilité à partir, on peut faire effectivement un vrai travail thérapeutique avec une psychologue, par exemple, pour essayer de comprendre là où ça s'accroche, hein, pourquoi ce sentiment de culpabilité reste, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison fondamentale si la décision a été prise collégialement.
Alors justement, j'imagine que les mots employés dans la commission, au moment de conseiller, ils n'orientent pas, mais en tout cas ils conseillent, ils expliquent, ils sont très importants pour l'après.
La commission, c'est une commission de diagnostic anténatal, hein, où il y a des médecins, pédiatres, des obstétriciens, etc. Et en fait, c'est quand même les parents qui demandent une IMG. C'est-à-dire que les médecins qui suivent les parents disent, bah, écoutez, là, vu la pathologie, vu le risque, etc., on vous conseille une IMG. Les parents disent, ben oui, on est d'accord, on est d'accord. Et à ce moment-là, ça passe en commission. Et il y a ça revient aussi chez les parents. La commission est d'accord et à ce moment-là, les parents disent « Ok, on y va ». Mais effectivement, en général, c'est bien pour ça qu'il y a des examens qu'on fait entre souvent la première annonce et la décision de l'IMG pour essayer de vraiment aller au bout de ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé. Mais parfois, on n'y arrive pas d'ailleurs.
Et pour les médecins aussi, c'est pas simple.
Non, pour les médecins, c'est pas simple du tout. C'est pas simple.
Parce qu'il y a une responsabilité énorme.
Oui, et puis il faut accompagner les parents sans pousser trop d'un côté, sans pousser trop de l'autre. Il y a des parents qui, ce qu'on appelle, alors c'est pas très joli, hein, dans le jargon, on appelle les parents conservateurs, c'est-à-dire qu'il y a des parents à qui on annonce une malformation létale pour le bébé, mais qui décident finalement d'aller jusqu'au bout de la grossesse, ça arrive, et à ce moment-là, on les accompagne le mieux possible sur les quelques heures ou les quelques jours de vie du bébé après la naissance. Mais là aussi, c'est parfois difficile pour les médecins, mais toute l'équipe du coup essaye d'accompagner au mieux.
Les
mais
médecins,
c'est
vrai que les psychologues.
Les médecins, les psychologues, les sages-femmes.
On ramène ça quand même à la maison le soir.
Les psychologues ?
Bah, tout le monde, oui, tout le personnel bah,
tout le monde, oui,
de santé qui accompagne ces familles.
Ouais, alors après, on reste professionnel quand même, hein, donc on essaye de quand même d'avoir une certaine distance professionnelle, de ne pas prendre ça trop pour moi. Mais c'est vrai que c'est pour soi, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est des situations difficiles.
David vous dit, je ne sais pas comment parler de l'IMG à mes autres enfants. Comment ne pas trop les choquer tout en disant la vérité ? Faut-il rentrer dans les détails s'ils posent des questions ? C'est vrai que ça, ce n'est pas évident.
Oui, ce n'est pas évident. Alors, ça dépend évidemment de l'âge des enfants. Moi, je pense que de toute façon, il faut être assez vrai avec les enfants. Je le dis toujours à chaque fois et je pense que c'est important. Je pense que, voilà, on peut dire à un enfant que le bébé que maman avait dans son ventre est très malade et qu'on ne peut pas continuer la grossesse, qu'il faut l'arrêter. Voilà, et ça veut dire que le bébé va mourir. Je pense que c'est pas obligatoire de rentrer, parce que d'abord il n'y a pas forcément de geste féticide à chaque fois, hein, ça il faut bien l'entendre, c'est-à-dire que quand la grossesse est peu avancée, avant 20-22 semaines, de toute façon le bébé n'est pas viable, et donc quand, à l'accouchement en fait, en général il naît mort, donc voilà, il n'y a pas forcément de geste féticide, je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, sauf si c'est des ados qui posent vraiment des questions. Il y a pas mal d'associations, vous avez parlé de la petite Émilie, il y a aussi AGAPA ou SPAMA qui sont des associations qui, souvent gérées par des parents qui ont vécu ce genre de choses, qui aident et puis qui donnent des exemples de livres, des bibliographies qui sont plutôt bien faites. Et puis, si on n'arrive pas à en parler, parce que parfois, c'est très difficile pour des parents de pouvoir l'évoquer avec des enfants, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter non plus à se faire aider. C'est-à-dire que moi, je reçois des enfants de couples en essayant de leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et puis, souvent, les enfants, avec des personnes autres que leurs parents, ils peuvent poser des questions qui dérangent, dont ils ont peur que les parents soient très tristes ou se mettent en colère. Et avec nous, ils n'ont pas de problème. Mm-hmm. Et voilà, c'est souvent plus facile, quoi.
Chloé dit « Depuis mon IMG, je ne supporte pas de voir des femmes enceintes ou des bébés. Une amie proche vient d'accoucher. Faut-il que je me force à aller la voir ?»
Sûrement pas. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment faire comme on le sent. Par contre, on peut essayer d'expliquer en disant bah « Là, c'est vraiment trop difficile pour moi en ce moment, surtout si c'est vraiment très proche de son IMG à elle. » Par contre, si cette rage, parce que le mot rage est quand même fort, si cette rage ne diminue pas, continue à être très très forte, là aussi peut-être qu'il faut se faire accompagner. C'est-à-dire que vu le cataclysme que c'est, vraiment c'est important de soit on a les ressources psychiques très bien pour le traverser avec son conjoint, avec sa famille, etc. comme disait Angélique, soit on a un peu de mal et à ce moment-là il faut vraiment se faire accompagner par un professionnel pour pas que ça reste enquisté comme ça pendant des années.
Puis j'imagine que là on voit des femmes enceintes partout dans la rue. Mais c'est comme quand on veut faire un bébé.
Exactement, exactement. On voit des femmes enceintes partout. Mais il ne faut vraiment pas s'obliger. Il faut s'écouter soi et écouter sa souffrance, vraiment.
Bien sûr. Ludivine vous dit « Ma peur principale est d'oublier à quoi ressemblait mon bébé car je n'ai pas de photo. J'y pense tous les jours. Avez-vous des conseils pour me soulager de cette angoisse ?»
Alors, la question des photos, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, normalement, il y en a dans le dossier. Donc, on peut toujours aller demander. Après, je ne sais pas depuis combien de temps on fait des photos. Bon, voilà. Ça, c'est possible qu'il n'y en ait pas pour elle. En fait, derrière cette question, il y a vraiment l'angoisse d'oublier ce bébé. Et qui existe aussi, là, comme la culpabilité, ça existe très souvent chez les femmes qui ont perdu un bébé en périnatalité, en périnatale. Et alors moi, je leur dis, mais vous ne l'oublierez jamais. Votre corps ne l'oublie pas, votre psychisme ne l'oublie pas, vous avez traversé quelque chose, donc n'ayez pas peur de l'oublier. Après, on oublie peut-être le visage, effectivement, mais ça, c'est parce que notre mémoire, on ne garde pas des informations qui, au bout d'un moment, s'en vont. Mais... voilà, parce que l'idée, c'est de rester accroché à son deuil, à sa souffrance, etc., pour ne pas l'oublier. Et en fait, je dis vraiment...
parce qu'on a l'impression qu'on lui doit...
lui doit quelque chose. Et en fait, non, tous ses parents, et de toute façon, même s'ils n'ont pas forcément donné le nom, mais souvent, ils donnent un nom à leur bébé, ils l'inscrivent sur les livrets de famille. Donc, il a une existence, ce bébé. Et c'est très bien comme ça. Et c'est comme ça qu'ils n'oublieront jamais, même s'ils ne se rappellent plus du visage ou des circonstances de l'accouchement, etc. Voilà. Mais là aussi, ça peut demander du temps. Hein. Le psychisme, ça demande du temps.
Comment ça se passe si les deux parents ne sont pas d'accord ?
C'est compliqué. Alors, c'est la mère qui décide.
C'est la mère qui a
le dernier mot.
C'est son corps,
ouais.
Ça arrive ? Ou on réussit ?
Non, moi, je ne l'ai jamais vu. Franchement, en 20 ans de carrière, je ne l'ai jamais vu. Mais en général, les parents sont d'accord.
Cécile vous dit, lorsque les anomalies qui ont engendré une IMG ne sont pas génétiques, comment avancer alors qu'il n'y a pas d'explication ?
Alors moi, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, l'incompréhensible, le non-sens. Effectivement, il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne comprend pas pourquoi ça arrive, et ça arrive quand même. Voilà, je pense que c'est le temps qui permet d'avancer, encore une fois, éventuellement, un travail thérapeutique. Ce qui est très difficile, c'est de perdre, moi je trouve, et en particulier, ça a été vrai pour Angélique, quand c'est la première grossesse, on perd cette naïveté ou cette insouciance des grossesses. C'est-à-dire qu'on se rend compte, on prend conscience tout d'un coup que, faire un bébé, bébé et tous les 9 mois de l'embryogenèse, etc., en fait, c'est presque un miracle quand un bébé qui est en bonne santé arrive. Et les grossesses suivantes, c'est vrai qu'elles sont difficiles parce qu'elles sont empreintes d'angoisse. Et si on n'a pas eu de réponse, bah, on se dit que ça peut arriver à nouveau. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a, voilà, il y a pas beaucoup de réponses faciles pour ce genre de choses, pour ce genre de questions.
Delphine vous demande comment réagir aux remarques inadaptées comme t'en auras un autre, c'est pas grave.
Ouais. Ouais, ça c'est pire que
alors,
tout.
Oui, alors ça, les gens sont dans des circonstances comme ça.
C'est pas grave, cela dit.
Non, mais souvent ils peuvent dire non, mais t'en auras un autre, etc. Voilà, moi je pense que.
T'es encore jeune.
Oui, alors là aussi, je pense qu'il faut choisir un petit peu les gens avec qui on sent que c'est pas facile, ou les gens qui sont un peu maladroits, voilà, et ne pas trop se confronter à des gens qui vous font du mal par des réactions qui sont maladroites et pas malveillantes. Hein. C'est parce que c'est tellement dur, que, même pour l'entourage, qu'on ne sait pas quoi dire. Quoi. Et donc l'idée, c'est plutôt, quand on a quelqu'un dans son entourage qui a fait une IMG ou qui a perdu un enfant, c'est on l'écoute, on est là, on propose son aide, mais on essaye de ne pas dire grand-chose. Parce que les conseils...
Bon, c'est souvent... Il n'y aura jamais de bons conseils, de toute façon.
Ça peut tomber.
La douleur, elle doit être vécue. Donc.
Clarisse vous dit « Je souhaitais initialement accoucher sans péri, avec une musique douce, faire un pot à pot tout de suite. Bref, j'avais un projet de naissance. Est-ce que ça tombe à l'eau avec l'IMG ?»
Eh ben moi, je ne crois pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'avec l'équipe, on peut tout à fait, quand on prépare l'accouchement suite à une IMG, on peut tout à fait dire « Ben voilà, moi, j'aimerais bien avoir une lumière tamisée, de la musique, accueillir mon enfant, le prendre dans les bras, rester pendant tout le temps, ce que disait Angélique, des 2 heures post-accouchement. » Et non, non, au contraire. Moi, je pense qu'au contraire, c'est très important de pouvoir essayer. Alors, encore une fois, ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui disent « j'accouche et après je ne veux plus en entendre parler bon. ». Mais si on a envie de quelque chose, que l'accouchement se passe bien et qu'on en ait un souvenir aussi bon que possible, et ben ça permet, à mon avis, de redémarrer mieux après.
Merci à Florence Devailly, la psychologue, d'être venue nous voir. Et surtout un grand merci à Angélique d'avoir accepté de raconter cette histoire douloureuse. À Agathe Le Caron. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. Ciao tout le monde !